Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, la fois dernière, après avoir parlé de la perfection, j'ai parlé de l'obéissance qui est inséparable de celle-ci. L'homme vertueux qui a le sens de la perfection obéit à cette perfection en essayant d'être lui-même parfait et donc en s'employant pour cela à se perfectionner. C'est en obéissant à la perfection qu'il devient parfait. Mais c'est en étant parfait qu'il devient obéissant. Plus il répond à l'appel venant de la part supérieure de l'existence et de lui-même, plus il devient parfait. Et plus il devient parfait, plus il répond à cet appel de la part supérieure de l'existence et de lui-même, plus il la fait exister, plus il se met à exister en elle. Nous comprenons par là même cette parole si importante et parfois si mal comprise. Que ta volonté soit faite. Cette parole, issue de la prière sur la montagne, dite « Notre Père », nous met au cœur du plus haut accomplissement qui soit. Quand il est question de laisser totalement exister la volonté divine, il faut bien voir que ce qui est en jeu va bien au-delà de la notion de volonté au sens psychologique du terme. Elle nous introduit dans le saint des saints de l'être. Ce qu'il y a de plus beau quand on fait quelque chose, c'est de s'effacer devant ce que l'on fait afin de laisser être ce que l'on fait. Ce qui fait la création d'un artiste, c'est que celui-ci s'efface devant la création afin que celle-ci puisse exister. Autrement dit, s'effacer devant ce que l'on fait en se soumettant complètement à cet effacement, en obéissant totalement à celui-ci, est la marque de l'action accomplie. Dieu s'efface devant la création le huitième jour, afin de pouvoir laisser celle-ci s'exprimer librement. Et il crée vraiment l'homme et le monde et l'homme, parce qu'il laisse le monde et l'homme exister et vivre. Et c'est ainsi que l'homme et le monde sont créés. L'homme et le monde sont créés non pas parce que Dieu intervient sans arrêt à la place de l'homme et du monde pour vivre à leur place, mais pour les laisser être en vivant constamment avec eux, mais jamais à leur place. Quand nous agissons, qu'il soit possible d'agir ainsi, que nos actions soient telles qu'elles laissent l'action agir. Que notre humanité soit telle qu'elle laisse l'humanité agir. Que notre liberté soit telle qu'elle laisse la liberté agir. Ce n'est pas en voulant tout maîtriser que l'on maîtrise. Lorsque on veut tout maîtriser, on a peur. Et ce n'est plus nous qui agissons, mais la peur qui agit à travers nous. Et comme la peur agit, elle entraîne par réaction la peur. Lorsqu'à l'inverse, nous savons nous effacer devant l'être, les autres et les choses pour leur permettre d'exister, effaçant la peur, effaçant notre peur, nous éliminons toute peur et nous permettons ainsi à une extraordinaire gouvernance des êtres et des choses, gouvernance tant recherchée, de pouvoir s'exprimer. L'homme vertueux est celui qui s'efface devant la vertu pour pouvoir la laisser agir, et c'est ainsi qu'il est vertueux. L'homme céleste s'efface devant le ciel pour pouvoir permettre à celui-ci d'agir. Et en agissant ainsi, il est comme Dieu. Tout comme Dieu s'efface pour permettre à tout d'exister, l'homme découvre en lui ce que un théologien grec appelait l'homme déifié, l'homme divinisé. L'homme découvre cet homme divinisé en lui permettant d'exister. L'homme est appelé à la déification, rappelle toute la théologie orthodoxe, en voyant là le message inouï de l'Évangile. Message résumé par saint Irénée lorsque celui-ci explique que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il n'y a pas que l'homme qui est appelé à la déification. Tout est appelé à la transfiguration. Et on est véritablement dans la vertu. Lorsque on s'efface, non pas pour humilier la volonté de l'homme, mais pour célébrer la gloire qui donne du sens au fait de s'effacer. L'homme est appelé à s'effacer non pas pour être rabaissé, mais pour être celui par qui tout est rehaussé. D'où ici un sens supérieur de la vertu. Il est vertueux d'obéir parce qu'il est plus que vertueux de faire vivre la gloire.
Thank you.
Comme la fois dernière, c'était le chœur de la cathédrale de Moscou dans un chant de la Divine Liturgie. Chers amis, après avoir eu le bonheur d'entendre le père Philippe Dautet nous parler de son entrée dans la vie spirituelle et puis de la fondation, de la création de ce merveilleux centre d'études et de prière qu'il anime à Sainte-Croix en Dordogne. Aujourd'hui, le père Philippe voudrait, je crois, nous parler de la mystique et de la guérison qui ont été les deux piliers de sa pratique à partir des Pères du Désert.
Absolument. Donc, découverte des Pères du Désert, pour ma part, en 1981, et découverte stupéfiante, c'est que dans les premiers siècles chrétiens, donc ça concerne tous les chrétiens, il faut rappeler que quand même, il n'y a pas d'église catholique, protestante ou orthodoxe dans le premier millénaire, il y a l'église. Et donc, il y a une expérience commune à toute l'église. Et à la racine de cette expérience, nous avons les Pères du désert d'Égypte, qui est à la racine de toute l'édification de l'expérience monastique en Occident, à savoir par Saint Benoît, via Saint Jean Cassien, il y a tout l'héritage des Pères du désert. Et donc, découverte qu'au désert, au 3e et 4e siècle, il y a la prise en compte d'une articulation fondamentale entre, d'une part, l'éveil à la prière, à la relation à Dieu par la prière, le fait de la méditation des Écritures, de l'Écriture sainte, de l'Évangile, de pouvoir vivre plus intensément la relation avec le Christ. Et cela ne peut pas s'accomplir sans une autre dimension qui est la purification du cœur. Purification du cœur qui se révèle être une vraie psychanalyse au sens littéral du terme analyse de la psyché, c'est-à-dire l'observation des mouvements intérieurs pour ne consentir qu'à des mouvements conformes aux évangiles et ne pas consentir à toutes les pulsions de mort, à tout ce qui vient faire obstacle à la relation avec le Christ en nous. Et donc, l'observation, l'attention intérieure, la nepsis, nous pourrions dire en tradition orthodoxe, et ce développement ici de l'observation de soi qui amène à toute une dynamique thérapeutique fondamentale. Donc là, pour les premiers chrétiens, on n'envisageait pas la voie spirituelle selon l'évangile, puisqu'ils voulaient vivre le maximalisme évangélique sans la respiration entre la dimension de la prière et de la méditation des Écritures, d'une part, et la dimension de la purification du cœur, donc la purification des passions, qui est l'objet de toute la cèse des traditions monastiques en général, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes ou coptes. Voilà. Et donc, là, j'ai découvert que les Pères du désert d'Égypte au IVe siècle avaient une connaissance approfondie des rouages de l'âme, une connaissance approfondie pour exercer un mouvement de liberté intérieure, c'est-à-dire laisser vivre à l'intérieur ce qui est conforme au Christ en eux et ne pas laisser de la place à ce qui vient nous distraire, nous déporter ou bien venir altérer, voire même pervertir.
Donc être dans la droiture du corps, dans l'attention, dans la concentration.
C'est ça.
Et ne pas se laisser perturber, dissiper par, qu'on peut appeler le malin, qui sème le chaos, le brouillage mental.
Voilà, mais aussi le malin, mais en deçà, il y a aussi le fait de ne pas être au clair avec soi-même. Mm-hmm. Donc tout un cheminement de vérité sur soi-même, fondamental, qui a été quand même délaissé dans les milieux occidentaux, il faut bien le dire.
Complètement, parce qu'on a l'impression l'impression qu'en Occident, parfois, ce qui a prévalu, c'est le tribunal, le jugement, c'est la faute, le péché.
C'est ça.
Et alors, ça peut exister parfois aussi dans l'orthodoxie, mais jamais du tout cette thérapie de l'âme à l'intérieur.
Ce qui a donné, pour moi, ça m'a réjoui, parce que, en fait, au lieu d'être dans le jugement, dans la culpabilité, qui est un jugement sur soi-même, au lieu d'être de se massacrer parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être, etc., etc., il s'agit de se prendre avec compassion et simplement d'observer pour se placer en responsabilité de son propre devenir. Et donc, par exemple, si on lit les évangiles, alors on peut avoir soit une vision où le Christ, d'une part, vient juger les pharisiens, les condamner, etc., ou bien exprime une compassion pour eux qui se sont égarés. Et on voit que la perspective n'est pas la même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de juger nos égarements, il s'agit de rectifier, ce qui n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de
remettre dans l'axe,
mais il s'agit de remettre dans l'axe. Donc c'est beaucoup plus important de vouloir remettre dans l'axe, de corriger ses erreurs, et les erreurs peuvent être bénéfiques si on sait les corriger, que de se culpabiliser de ses erreurs. Oui. Et on voit bien que ça donne deux orientations différentes, et j'ai trouvé que l'orientation thérapeutique, qui est l'orientation par laquelle on prend acte de nos erreurs, on reconnaît nos erreurs, on les corrige, est beaucoup plus dynamique et positive et vivante que le fait de se replier sur une culpabilisation intérieure.
Et puis, nous sommes d'accord, il y a le fait de restaurer quelque chose qui a été endommagé, il y a peut-être aussi le fait de découvrir quelque chose que l'on ignorait totalement, et dans le corps, et dans l'âme, et dans l'esprit.
Exactement. Donc, ça veut dire laisser de la place. Et laisser de la place, ça veut dire désencombrer. Donc, en fait, le processus thérapeutique est un processus de désencombrement. Et donc, désencombrement de toutes les ruminations intérieures, de toutes les ratiocinations, de tout ce qui vient, je dirais, nous parasiter du dedans. Voilà. Donc, se désencombrer. Et c'est là où on retrouve ce que
donc,
j'avais
beaucoup
découvert.
De joie, beaucoup de joie.
Et c'est là où j'ai retrouvé la joie spontanée des moines du désert qui jouaient à chat perché à la sortie d'église. Oui. C'est-à-dire un esprit de simplicité, ça veut dire désencombrer, qui n'est pas aggloméré dans l'agglomération de tout un complexe problématique qui ne savent pas se résoudre.
Magnifique. Donc, par là même, une médecine complètement originale, une psychologie complètement originale,
absolument.
Une religion complètement originale,
absolument.
Où le religieux guérit.
Absolument, où le religieux guérit, et on voit là l'évangile opératif, et le fait de suivre la voie préconisée par le Christ dans les évangiles est une voie de libération, est une voie de salut. C'est-à-dire qu'on voit effectivement s'opérer la libération intérieure et le fait de l'allègement intérieur et le fait que les personnes puissent marcher vers la vérité d'elles-mêmes et par là vers leur cohérence intérieure, vers l'axe de la personne, je dirais.
Un immense merci, cher Père Philippe, pour nous avoir parlé avec tant de dynamisme, d'enthousiasme et de joie à la fois de l'enseignement de la guérison et de des noces entre la thérapie et d'autre part la vie transcendante et divine. Merci. Возвратиться в землю свою, то не погибнуться повышение Его, блажене мужи Боги, Ангель, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, боится я же в них, хранящего истину век, творящего суда видимых, дающего пищу алчущих, Господи, шито кованные, Господь умудряет светцы, Господь возводит неизвеженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы сия и на убивет, и будь грешник погубит. Pour notre plus grand enchantement, c'était à nouveau le chœur de la cathédrale de Moscou. L'homme moderne est cassé à cause de son ego, souligne Olivier Clément dans Questions sur l'homme. Mais il peut retrouver son harmonie. Il la retrouve quand il fait l'expérience de la beauté et notamment de la beauté du cosmos. Jean Kowalewski, dans la liturgie céleste, nous explique ce qu'il y a derrière l'expérience de la beauté qui restructure l'homme. C'est le temple, et derrière le temple, la gloire. On comprend mal ce qu'est le temple, parce que on ne voit pas ce qu'il signifie. On le confond avec le temple extérieur, en ne voyant pas le temple intérieur, le temple humain et le temple cosmique. Voici ce que Jean Kowalewski écrit à ce sujet dans la liturgie céleste. Dans la Bible, quand Ézéchiel voit le ciel se révéler à lui, il voit trois portes au nord, trois portes au midi et trois portes à l'occident. Quand Jean l'évangéliste voit le ciel se révéler, il voit également trois portes au nord, trois portes au midi et trois portes à l'occident. Ces trois portes désignent le corps qui est le temple où Dieu habite en nous, l'église où l'on célèbre Dieu qui habite en nous et le cosmos qui est le temple du Saint-Esprit. Les Grecs disaient que l'univers est un macrocosme et que nous sommes son microcosme. L'Église est une projection du corps, l'autel désignant la tête, le cintre, la poitrine et l'entrée, les pieds. Elle exprime le rythme du corps humain. L'Église, comme image de l'univers, renferme tous les éléments de l'univers. Le corps humain et l'Église sont une image du temple céleste. Par la prière dans la nature, par la prière intérieure et par la prière dans l'Église, tous les corps s'harmonisent, le corps humain, le corps ecclésial et le corps cosmique. Notre vision de l'Église est tellement politique que nous avons tendance à confondre celle-ci avec l'Église en pierre comme élément architectural, ou bien encore l'Église comme autorité politique qui s'exprime dans la vie de la cité. Jean Kowalewski, à la suite d'Olivier Clément, rétablit le véritable sens de l'Église. L'Église et le corps sont la même chose. Le corps est le temple de Dieu, écrit saint Paul. Le corps est un temple et le temple est un corps. Et ce temple qu'est le corps et ce corps qu'est le temple exprime le corps cosmique et le temple cosmique. C'est tout l'univers qui forme l'Église et qui est une immense Église à la gloire de Dieu. Et donc, lorsque nous faisons l'expérience de la beauté, nous faisons l'expérience du corps comme macrocosme dont nous sommes le microcosme. Et pour finir cette émission, à nouveau pour notre plus grand enchantement, le chœur de la cathédrale de Moscou.
Святые похвала, в церкви нашей славой.